Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat d'été. À l'ordre du jour ce soir, Aywaz Korsika est-il le post-MeToo français? Dans ce titre friand de hashtag et derrière ce titre, un mouvement qui a cru et qui s'est développé à Bastia, à Ajaccio, et qui a surpris après une première manifestation à Bastia le 21 juin dernier. Une seconde a eu lieu dimanche dernier à Ajaccio, qui a rassemblé plus de 400 personnes avec le même but, dénoncer viol et violences sexuelles en Corse, à la suite du succès sur les réseaux sociaux du mot dièse Aywaz Korsika, par lequel des femmes révélaient avoir été violées à 13, 14, 15 ans ou plus. Alors que le mouvement MeToo en forte croissance avant la crise de la Covid semblait marquer le pas, trouverait-il en Corse, où il n'avait pas été très suivi au départ, un relais? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Laure Murat est essayiste, historienne, professeure à UCLA. Et vous êtes spécialiste, Laure Murat, de l'histoire de la littérature. Elle a publié récemment Une révolution sexuelle, réflexion sur l'après Weinstein, c'est chez Stock en septembre 2018. Laetitia Maroukou est avec nous également. Elle est présidente du réseau d'entraide féminin associatif Donnet et Sourelle, fondé en octobre 2019. Vous êtes conseillère municipale à la ville d'Ajaccio en charge de la délégation Égalité femmes et hommes. Et enfin, Julie Allion est avec nous. Elle est cinéaste, documentariste et directrice de casting. Vous êtes autrice, Julie Allion, de Viril, sorti en 2019, et de Lutte Jeunesse, sorti en 2017. Documentaire qui compile des entretiens que vous avez menés justement en Corse, après un casting sauvage pour Une vie violente de Thierry de Peretti, mais également sur cette question de genre en Corse. Il y a un DVD qui vient tout juste de sortir sur ce sujet. On en parlera avec vous.
J'avais 16 ans!
J'avais 9 ans! 10, 11, 12, 13, 14 et 15!
11, 12, 13, 14, 15! J'avais 16 ans!
J'avais 15 ans!
J'avais 20 ans!
Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère! Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère!
Le but de cette manifestation, c'est de dire à toutes les filles qui ont peur qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont accompagnées et qu'on est avec elles déjà. Ensuite, on veut qu'au niveau judiciaire, les plaintes elles soient systématiquement prises. On ne veut plus de plaintes classées sans suite, on ne veut plus de questions mal placées quand on va porter plainte. Le viol, c'est un crime et il faut le considérer comme tel, il faut arrêter que ça se banalise. Donc on veut réveiller tout le monde, toutes les générations sur ce problème-là et on veut soutenir les victimes.
Police !
Bonsoir, Julie Allion.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez été surprise, vous qui tournez depuis un certain temps en Corse, justement sur ces questions de genre, par ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire ces trois dernières semaines, cette montée en puissance d'un mouvement de femmes, justement, pour dénoncer viol et violences sexuelles en Corse?
Alors oui, j'ai été surprise, d'autant que c'est pas seulement un mouvement de femmes. D'ailleurs, il y a aussi des garçons hein, dans le mouvement. Il y a aussi des garçons qui affirment avoir été violés. Il y en a plein. Mais oui, j'ai été surprise. J'ai été surprise de la rapidité avec laquelle ça a pris. Et c'est comme si pendant des mois et des mois, cette parole n'existait pas du tout, et que d'un coup, ou si elle existait vraiment de façon cachée, comme si d'un coup elle avait embrassé.
Surgi.
Ouais, d'un coup comme ça.
Laetitia Maroukou, vous-même, bonsoir. Vous êtes présidente d'un réseau d'entraide féminin en Corse. Vous êtes conseillère municipale à la ville d'Ajaccio et vous êtes en charge de la délégation Égalité femmes-hommes. Est-ce que cela vous a surpris?
Oui, bien sûr. On a été surprise parce que nous nous sommes retrouvés en l'espace d'un week-end, celui de la fête des mères, avec 800 victimes qui se sont toutes manifestées en même temps sur Twitter.
Et, de tous âges
De tous âges, tout à fait, et qui dénonçait des viols aussi, qui étaient survenus à tout âge.
Et cela, vous ne l'attendiez pas d'une certaine façon?
Non, on ne l'attendait pas parce que c'est la première fois qu'il y a une telle déferlante en Corse. Et je vous avoue que même en entendant et en reconnaissant la voix là des jeunes filles lorsque vous avez commencé par l'introduction de la manifestation, ça suscite toujours beaucoup d'émotions chez nous d'entendre ces jeunes filles crier leur douleur.
Pourquoi ce hashtag Aywaz Korsika?
Parce qu'en fait, je pense qu'elles ont voulu dénoncer que, oui, en Corse, nous sommes préservés de certains maux, mais que non, nous ne sommes pas épargnés. Donc, ce hashtag a été pour elles, je pense, un cri d'indignation en disant, nous aussi, nous sommes victimes de viols, de violences, dès notre plus jeune âge. Ce n'est pas une généralité, mais cela arrive aussi chez nous.
Laure Murat, vous ne connaissez pas directement la situation en Corse, mais vous avez écrit un livre qui s'appelle « Réflexions sur la Prevenstein, une révolution sexuelle avec un point d'interrogation ». C'était il y a 2 ans maintenant. Et ce livre, justement, se posait la question de savoir pourquoi, eh bien, alors que l'affaire Weinstein avait développé un mouvement très fort, le mouvement MeToo aux États-Unis, pourquoi la France avait été, entre guillemets, à l'écart, c'est du moins votre analyse, à l'écart de ce mouvement-là. Est-ce que vous suivez ce qui se passe en Corse depuis que cela a commencé? Laure Murat, bonsoir.
Bonsoir. Oui, oui, je suis ça de très près, comme je suis tous les mouvements qui peuvent s'apparenter à MeToo et qui en sont... Alors, votre émission s'intitule le post-MeToo, mais je crois que c'est la continuité de MeToo qui a un mouvement, qui est un mouvement assez curieux, en tout cas en France, dans le sens où il se perd dans les sables et se réveille tout à coup par des événements comme par saccade, en quelque sorte. Mm-hmm. La première, c'était bizarrement la Tribune d'honneur, qui a été une aubaine, parce que ça a réussi à fédérer beaucoup de gens qui, tout d'un coup, se rendaient compte de la ringardise généralisée, promue des relations hommes-femmes avec toute la licence que ça pouvait supposer. Après, il y a eu d'autres affaires, mais il y a eu l'affaire Matzneff, puis après, il y a eu l'affaire Adèle Haenel, mmh. et puis il y a eu les Césars, et puis il y a eu le 8 mars, qui a été une grande mobilisation, mmh. et puis ça s'est reperdu dans les sables à cause de la pandémie, comme beaucoup de choses, par ailleurs, et puis voilà que ça se réveille. Alors, à Bastia, enfin, en Corse, ce qui me réjouit, bien entendu, parce que je crois que c'est très symbolique, en plus, et ce sont des gens très jeunes, je crois qu'il faut les écouter. Et puis, avec ces nominations indignes au gouvernement, qui fédèrent à nouveau un mouvement qui, j'insiste, est quand même très général et très spontané.
Oui, alors on va revenir sur ces nominations au gouvernement, puisqu'on en a entendu parler pendant le journal de Benoît Bouscarel tout à l'heure à 18h. Mais si on s'attache au cas de la Corse, justement, Julie Allione, vous avez dit que vous avez été surprise, et pourtant vous travaillez sur cette question du genre. Vous avez, pour vos films, et en particulier pour Viril, qu'il faut conseiller à nos auditeurs, il est sorti en DVD avec beaucoup plus d'ailleurs de choses que quand il est sorti dans les festivals, puisque c'est un petit film qui dure 1h10 à peu près, mais là, vous avez plusieurs heures d'entretien.
Oui, en fait, le film est augmenté d'une série de 9 épisodes sur les questions de genre en Corse, qui s'appelle d'ailleurs « Genre quoi ?»« Genre quoi la femme corse ?»« Genre quoi l'homme corse ?»« Genre quoi soumise ?» etc. Donc effectivement, moi, c'est une question sur laquelle je travaille de manière visible depuis quelques années, de manière invisible depuis toute ma vie, je crois. J'ai été très surprise, effectivement, parce que il y a encore 2 ans, quand j'ai interrogé des jeunes gens, et des jeunes, et des moins jeunes...
Et certaines de ces jeunes filles, d'ailleurs, sont dans le mouvement, oui, dont on parle, là.
Oui, absolument. Mais à l'époque où j'ai posé des questions sur comment la Corse fabriquait du genre à toutes ces personnes-là, ce qui revenait massivement, et c'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui en Corse et qui est très massif, c'est que en Corse, on est à l'abri.
Il n'y a pas de problème.
Non, il n'y a pas de problème. Et les femmes sont hyper respectées en Corse. D'ailleurs, on ne drague pas dans les bars. Une femme peut se promener à 2h du matin en mini-jupe dans la rue, elle sera jamais agressée, comme si c'était ça la question du viol. Et que c'est quand même un fantasme. On est quand même dans un pays de fantasmes en Corse, beaucoup, et d'autofiction, et que c'est un fantasme suffisamment répandu pour qu'on avait l'impression que ce soit un problème de français et que le timing de la Corse soit un timing spécifique qui n'avait rien à voir avec celui du continent.
Dans votre film, il y a une fille qui dit « Tu es plus rassurée par un mec de 22 ans en Corse que de 35 ans sur le continent. Ouais. Un Corse de 18 ans te parle déjà comme un homme », dit-elle. Ouais. Voilà, par exemple. Donc ça, on voit effectivement, et c'est sous le modèle de discussion assez informelle que vous avez menée avec 2 ou 3 filles, 2 ou 3 garçons qui parlent justement de cette question de la virilité, de la féminité en Corse. Laetitia Marocou, vous qui travaillez à la question de l'égalité femmes-hommes, vous avez auparavant eu des signes avant-coureurs, des personnes qui étaient venues vous voir à la mairie d'Ajaccio pour vous dire, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut faire dans ce domaine, puisque MeToo s'est développé un peu partout, pourquoi pas en Corse, ou au bout du compte, eh bien, il y avait cette sorte de silence qui s'est brisé d'un seul coup.
Alors, si vous voulez, moi, ma prise de fonction est récente, hein, étant donné que nous avons été élus le 15 mars et que...
C'est sûr.
Je n'étais pas une femme politique auparavant, je ne fais de la politique que depuis 3 ans. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est la présidente de l'association que je suis qui a été contactée. Et pareil, nous avons eu une recrudescence d'appels. Et alors que les données souris n'ont pas pour vocation première de traiter le sujet des violences faites aux femmes, puisque c'est un réseau d'entraide féminine, donc on doit répondre et résoudre des problématiques qui concernent l'économie, la santé, enfin toutes les problématiques qui sont liées au genre des femmes en Corse, et y compris les violences. Hein. Mais voilà, nous sommes positionnés sur un secteur assez généraliste. Et là, effectivement, confinement, et je me suis retrouvée à répondre à des femmes qui nous appelaient parce que des défaillances dans le système de prise en charge des victimes. Et cela... Donc ça a commencé comme ça en fait, hein. Et là je suis vraiment rentrée dans le bain pendant le confinement, mais à titre personnel et au titre de ma fonction de présidente de l'association Données Souris.
Oui, Laure Murin, vous disiez tout à l'heure effectivement qu'il y avait que le mouvement MeToo fonctionnait par sorte d'à-coup. C'est comme ça que vous l'avez vu monter, disparaître, renaître à d'autres endroits, etc. La Corse effectivement était considérée, c'est ce que nous disait à l'instant même Julie Allione, comme un endroit, du moins par les Corses eux-mêmes, comme un endroit protégé sur ces questions-là en raison d'un statut peut-être mythifié de la femme et de l'homme en Corse. Ça fait partie aussi des héritages que nous avons tous en tête, et c'est d'ailleurs ce qui est très présent dans le film Viril, c'est les récits que nous nous faisons de ce rapport entre hommes et femmes. Alors ça peut être vrai pour la Corse, ça peut être vrai pour aussi le continent, et c'est déconstruire ces récits qui permet justement peut-être à certains ou certaines d'entre elles de venir sur la scène publique pour dire « il y a un problème ».
Oui, et moi-même, j'ai vu le film et j'ai été très surprise en comparant ce qui se passe aujourd'hui en Corse par rapport à ce qui est dit dans le film, où beaucoup d'archaïsme culturel qui répond au fond aux préjugés qu'on a sur la Corse, un peu désolant comme ça, ne reflète pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, à part la dernière jeune fille qui parle et qui, je crois, est une des... militantes les plus en vue enfin, de ce mouvement actuel de I Was Corsica. Donc, c'est bien la preuve que dans une société qui se vante de ses archaïsmes culturels, y compris les femmes d'ailleurs, qui sont très complaisantes dans le film, hein, je parle, qui sont très complaisantes par rapport à ce modèle auquel elles font allégeance, eh bien, on se rend compte que là, il y a un effet de réel qui clairement montre qu'il y a autre chose.
Oui.
Il y a autre chose. Alors peut-être parmi des gens plus jeunes, mais les gens qui sont interrogés sont plutôt jeunes. Et puis, je trouve ça intéressant dans une société qui, je regrette de le dire, a aussi un rapport à la mafia. D'ailleurs, il a beaucoup été parlé de l'omerta, hein, considérant les viols, etc. Un rapport à la mafia et un rapport à ce qu'il faut bien appeler la colonisation. Qui est problématique. Et de l'émancipation. Je crois que là, il y a un problème d'une mise en perspective politique qui n'est pas du tout anodine, en Corse en particulier. Mais une fois de plus, je ne suis pas corse, ou alors ça remonte à très loin, et je ne peux pas me prononcer sur une île que je connaissais mal.
C'est d'ailleurs une des questions, Julie Allione, que de dire effectivement qu'on ne peut pas, et c'est ce que disent beaucoup de celles qui sont dans ce mouvement, pendant très longtemps, on ne pouvait pas avouer ou dire, parce qu'on ne voulait pas blesser une identité corse, dire que la Corse était comme le continent ou comme d'autres pays, comme l'Italie à côté. Il fallait protéger d'une certaine façon cette idée qu'il y avait, alors je parlais tout à l'heure de mythification, je ne sais pas si c'est ça, mais enfin, de ce récit que l'on se raconte à soi-même, Julie Allione.
C'est pour ça que je parle d'autofiction, mais c'est absolument vrai. Et c'est le seul endroit que je connaisse où les gens disent avec une espèce d'aplomb incroyable, nous vivons dans un matriarcat. C'est quand même d'une absurdité incroyable. jeunes, mais en Corse, les gens disent assez généralement, nous vivons dans un matriarcat. Et en réalité, ces voix-là, elles existaient déjà, mais elles n'étaient pas fédérées. Tout le monde s'est retrouvé très surpris d'entendre qu'il y avait des viols en Corse, mais tout le monde le savait, en fait.
Mmh. Et donc, effectivement, cette surprise, elle peut avoir aussi touché Marlène Schiappa, qui jusqu'à peu était secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et qui s'exprimait ainsi le 8 juin 2017 à propos de la Corse.
Répondre à la place de la femme en Corse, c'est difficile de le faire sans tomber dans les clichés, forcément, que nous avons tous. Mais effectivement, la Corse est une des régions de France dans lesquelles il y a le moins d'agressions sexistes ou sexuelles sur la voie publique. Je pense que culturellement, il y a une place des femmes en Corse qui est plutôt respectée. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Il existe des violences intrafamiliales, conjugales, etc. Et c'est pour ça que le tissu associatif doit être soutenu, densifié, pour faire en sorte que toutes les femmes puissent être en sécurité physiquement et psychologiquement. Il y a des associations qui font un travail formidable sur les questions des femmes. Et c'est elles qui sont en première ligne tous les jours et qui connaissent les besoins très concrets et quotidiens. Nous, on peut décider des politiques publiques à Paris depuis le ministère, mais elles ne se transposent pas de la même façon en Corse que dans la Creuse ou qu'en Seine-Saint-Denis ou que dans le 7e arrondissement de Paris.
Voilà ce que disait donc Marlène Schiappa, c'était en 2017. Laetitia Maroukou, c'est une des régions où il y a le moins d'agressions sexuelles et sexistes. C'est ce que disait donc il y a 3 ans, en l'occurrence, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes.
Oui, alors bon, Marlène Schiappa a la vision de la Corse quand même vue de l'extérieur, hein. Effectivement, le harcèlement de rue, nous ne connaissons pas ou très peu, parce que oui, il y a quand même un certain respect, et puis on ne veut pas passer non plus pour quelqu'un que l'on n'est pas en pleine rue. Mais comme le disait aussi Julie Allion, bien sûr, les viols existaient, ils ont toujours existé, il y en a aussi. Par contre, voilà, il faut faire attention. De ne pas stigmatiser, de ne pas généraliser, parce que nous sommes quand même 320 000 habitants. Et à contrario, il ne faut surtout pas non plus minimiser en ne prenant pas en compte les témoignages de ces jeunes filles qui sont vraiment...
Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris dans la documentation que l'on m'a préparée à partir des articles de presse sur ce mouvement, Aywas Corsica. Eh bien, ce qui m'a surpris, c'est de voir qu'il y avait eu, je crois, 48 ou 49 plaintes pour diffamation portées par des jeunes gens qui avaient été donc mis en cause par ce hashtag, en l'occurrence Laetitia Maroukou. Et pour l'instant, mais je ne sais pas si ça a évolué depuis le milieu de la semaine, une quinzaine de plaintes peut-être qui avaient été déposées par ces jeunes femmes et ces jeunes hommes dont parlait tout à l'heure Julie Allion dans ce contexte de Aywas Corsica, de plaintes justement pour pouvoir faire suite d'une certaine façon à ce grand moment sur les réseaux sociaux où on a dit avoir été victime de violences sexuelles. Qu'est-ce qui explique ces plaintes pour diffamation qui ont été recueillies par le parquet de Bastia selon la procureure de la République Caroline Tarot?
Eh bien, je pense que tout simplement les personnes qui ont été auteurs des violences ont été conseillées par des avocats très certainement, parce que effectivement, lorsqu'on a commis des actes répréhensibles, je pense que la meilleure des défenses, c'est encore de déposer plainte contre les personnes qui nous incriminent. Donc je pense que ça vient de là. Il y a eu une certaine peur aussi, je pense, de ces personnes de se retrouver avec une liste de noms qui n'a pas été divulguée, mais qui a quand même circulé sur des boucles de WhatsApp, etc., entre les jeunes filles. Bon. Donc je pense qu'ils ont anticipé, ils sont allés porter plainte de peur que leur nom ressorte. Bon, c'est assez classique, j'ai envie de vous dire. Hein.
Julie Allion.
Il est possible aussi qu'à l'intérieur de ces jeunes personnes, ou moins jeunes personnes qui sont mises en accusation, il y en ait un certain nombre qui n'a absolument pas conscience d'être réellement, d'avoir eu un comportement problématique, parce qu'en réalité, c'est des comportements qui culturellement sont plutôt ok. Forcer une femme à avoir une relation sexuelle avec soi, c'est assez nouveau qu'on trouve ça problématique en fait. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de familles, mais l'article qui est passé dans Le Monde qui interroge justement l'avocate d'un de ces jeunes hommes, c'est quand même absolument hallucinant. Il y a quand même une avocate, mais c'est aussi cette famille, etc. Ce jeune homme qui est capable de dire d'un jeune homme qu'il est trop beau pour avoir besoin de violer pour être dans une relation de séduction avec une jeune femme, qu'une jeune femme qui danse toute une nuit et séduit un homme ne peut pas venir dire après qu'elle n'était pas consentante.
Mais un des interviewés dans votre film, Julie Allion, dit bien que une femme qui va au comptoir, il ne supporte pas d'une certaine façon. Il dit déjà les hommes qui boivent, ça n'est pas très bien, mais alors une femme qui boit et qui se présente devant tout le monde au comptoir d'un bar, ça, c'est encore moins bien.
Et alors une qui paye ses consommations et qui paye les consommations d'un homme, alors là...
Oui, c'est encore pire.
C'est pire.
Oui. Laure Murat.
Oui, Emmanuel, je voulais juste ajouter une chose, c'est que moi j'ai lu, en tout cas dans les journaux, je ne sais plus où, mais qu'il y avait de fausses listes qui circulaient. Et ça, je crois que c'est très important, parce que c'est un, vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mmh. Et je crois qu'on a diffusé, aux grandes dames des militantes, on a diffusé de fausses listes afin de décrédibiliser le mouvement de gens qui étaient innocents et qui se retrouvent accusés à cause d'une fausse liste qui circule. Évidemment, s'ils sont, il est prouvé qu'ils sont innocents, c'est tout le mouvement qui en pâtirait.
Laetitia Marocou,
je n'ai pas vérifié.
Ouais. Et Laetitia Marocou, est-ce que vous êtes au courant de ces fausses listes qui circuleraient?
Oui, ça aussi, j'ai envie de vous dire, pareil, bien sûr. Du moment qu'il y a des fausses listes, on peut toutes penser qu'elles sont fausses. Bon, voilà. Après, lorsque l'on lit les témoignages des jeunes filles, et notamment les témoignages qui ont été affichés un peu partout en Corse, et d'ailleurs j'en profite aussi pour remercier Collège Féminicide de Paris, qui a collé aussi des messages de soutien aux jeunes
femmes corses,
on se rend bien compte... Oui, non, à Paris, elles ont...
Oui, oui, à Paris. Non, mais je veux dire en langue corse.
En langue corse, oui. Donc quand on lit ces témoignages-là, il n'y a vraiment aucun doute sur la véracité des propos, ça ne s'invente pas.
Combien de plaintes déposées à ce jour, après, à votre connaissance, Laetitia Marocou?
Alors écoutez, avec le préfet, là, lorsqu'il nous a reçus, on en était au nombre que vous évoquiez, hein, donc vos chiffres étaient justes, voilà, c'est ça. Il y avait encore une quinzaine de plaintes, a priori, qui auraient dû être déposées la semaine d'après à Bastia, et nous devons refaire le point parce que le préfet s'est engagé à nous faire un point très régulier sur les plaintes qu'il suit au fur et à mesure, celles qui n'ont pas abouti, et les nouvelles qui sont déposées pour avoir un œil dessus, c'est un de ses engagements.
Julia Lyon.
Ce qu'ont annoncé les jeunes femmes qui ont été déposées plaintes justement au commissariat de Bastia la semaine dernière, c'est qu'elles avaient de quoi déposer une quinzaine de plaintes par semaine tout au long de l'année.
Ah oui?
Oui. Donc elles avaient déjà un dossier prêt avec une quinzaine de plaintes à aller déposer régulièrement une fois par semaine pendant une année.
On écoute un extrait de votre film, Julia Lyon, donc Viril. Je rappelle pour nos auditeurs que ça s'écrit Viril, V-I-R-I-L. Et puis ensuite, avec une féminisation possible derrière et au pluriel, Viril, c'est donc un travail que vous avez mené avec des jeunes gens, des jeunes femmes en Corse sur la question de la sexualité. Il n'y a d'ailleurs pas que des jeunes gens et des jeunes femmes, il y a une dame plutôt âgée qui raconte comment son homme avait été tout à fait choqué de l'avoir entreprise par un de ses voisins et avait s'était vengé soi-même d'une certaine façon. Elle le raconte en riant.
Il y a un rapport aussi... la sexualité qui est très important et le regard des autres. Bon, mais ça, je pense que c'est pas que Ajaccio, enfin, pas que Ajaccio, pas que la Corse, mais disons qu'ici, ça prend des proportions assez exponentielles, quoi. Donc, forcément, à l'adolescence, il y a de suite un regard.
Et alors, on vous a appris quoi?
Maman, que ça soit ma grand-mère ou ma mère ou même d'autres femmes de ma famille, on m'a appris à ne jamais me montrer avec un garçon. Enfin, c'était cette idée-là de attention, Alexia, même si tu as un copain ou quoi, ne te montre pas avec lui parce que d'autres garçons vont te voir, tu vas être prise pour une fille facile, etc. À mon frère, on n'a jamais dit ça. Mon frère, lui, non, tu peux aller, c'est pas grave, si en ville on te voit avec une fille, y a pas de souci. Moi, non. Parce qu'il faut toujours se protéger et passer... Ben en fait, ouais, c'est ça, passer pour la fille un peu inaccessible et tu ne dois pas approcher les garçons non plus, ou alors très discrètement, parce que après tu peux être vite catalogué.
Un extrait de votre film, Julia Lyon, donc Viril, qui sort en DVD. On entend tout un tas de témoignages, et comme le disait tout à l'heure Laure Murat, on ne pouvait pas, et c'était votre cas, voir surgir ce mouvement qui est en train de naître en Corse par ce ton qui est souvent employé, qui est à la fois détaché, assez libre, mais en même temps un peu souriant par rapport à cette relation qui peut être tissée entre garçons et filles, en tout cas dans ce que vous avez sélectionné de ces entretiens. C'est ce qui ressort, quelque chose d'un peu amusant, une jeune femme qui dit « j'ai très tôt, le modèle c'est la femme puissante, indulgente et fidèle, et presque être soumise », et qui rit en disant « tout compte fait, je suis assez d'accord avec ce modèle ».
Oui, oui. Après, c'est un effet de montage. Hein. C'est-à-dire que le film est aussi une démonstration. Quand on regarde la série, qui est donc une élongation du film, on pourrait dire, il y a des témoignages qui... Le dernier épisode s'appelle « La misère sexuelle ». Hein. Mmh. Et la question, effectivement, de l'insularité et du petit nombre de personnes que nous sommes et de comment on a besoin de se présenter les uns aux autres amène des problématiques aussi à cet endroit-là.
La question de l'appartenance est au cœur aussi de cette discussion.
Non.
La femme appartient
oui.
à
une
son
famille
petit
aussi.
Copain,
encore, quand on se rencontre, on se demande pas qui on est, on dit de qui tu es. C'est comme ça qu'on se demande de qui on est encore. C'est de qui tu es, ça veut dire de quelle famille tu appartiens. Des gens qui disaient il y a des viols en Corse, les femmes sont agressées, la violence n'est pas la même que sur le continent, mais elle existe. Il y en avait beaucoup, mais cette parole n'était pas fédérée. Et là, elle se fédère. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'elles s'entendent, mais en réalité, elle existait.
Et Laure Murat, il faudrait pas se centrer simplement sur la Corse. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement de voir surgir ce type de paroles d'un peu partout, comme vous le disiez au tout début de notre discussion, et de les voir surgir par surprise, parce que, eh bien, à un moment, la coupe est pleine, quelques-uns ou quelques-unes ont envie de parler.
Oui, alors moi, ce qui m'a frappé aussi dans le film, c'est l'essentialisation de la masculinité et de la virilité.
Oui.
L'essentialisation qui est liée aussi à une culture, à une insularité, à quelque chose de national. Bon. La spontanéité du mouvement, alors évidemment, c'est toujours la même question, c'est comment naissent les révolutions. C'est une vieille question
d'historienne.
et là, on a bien conscience que, alors, Julie Allen dit que c'est un effet de montage. J'aimerais lui poser la question de savoir s'il y avait une autre parole qui affleurait dans son reportage et qu'elle aurait coupé au montage et qui expliquerait peut-être mieux le mouvement qu'on vit aujourd'hui.
Julia Lyon.
Non, je crois pas. En revanche, effectivement, quand on laisse la parole se dérouler, et par exemple, quand on regarde la série, on peut entendre effectivement qu'il y a quelque chose qui existe, mais c'était tellement résiduel qu'en réalité, c'est pas non plus malhonnête de pas l'avoir mis dans le film. Enfin, je crois pas. J'espère pas.
France Culture, le ton du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez le ton du débat, Aywaz Korsika est-il le post-MeToo français? C'est le thème de cette discussion avec Laure Murat, avec Laetitia Maroukou et avec Julie Allione. Nous parlons effectivement du mouvement qui est en train de grandir et de se développer encore, ce mouvement de femmes et d'hommes qui parle des violences sexuelles. Laetitia Maroukou, quelles sont les demandes justement de ce mouvement? Que demande-t-il en particulier auprès du préfet, puisque c'est le préfet qui est l'interlocuteur momentanément de ce mouvement. Quelles sont les demandes précises de ces femmes, de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes et de ces hommes et femmes qui viennent auprès de lui?
Alors, il y a eu plusieurs demandes de formuler, notamment, alors par IWAS, justement, Korsika, la demande de formation des professionnels. Ça a été une demande qui a été assez récurrente autour de la table.
Des professionnels comme les infirmiers, les psychologues, en milieu scolaire,
exactement.
etc., pour qu'on puisse parler de sexualité.
Les professionnels, oui, et du monde de l'éducation en particulier. Donc ça a été une des demandes. Ensuite, bien évidemment, la prise en compte des plaintes systématiques, et c'est là où le préfet a rappelé que la police et les gendarmes étaient dans l'obligation de dresser un PV dès lors qu'il y avait une jeune femme qui se présentait dans un commissariat de police, chose que nous ne savions pas. Hein. Mmh. Et donc il y a un PV qui doit être dressé systématiquement, qu'il y ait dépôt de plainte ou pas. Donc ça, il l'a bien rappelé en disant que on ne pouvait pas ressortir d'un commissariat sans avoir ce PV qui soit rédigé pour protéger justement les victimes. Et voilà, donc les plus grosses demandes, ça a été celle-ci, c'est-à-dire le suivi de la justice.
Un plan de prévention aussi. J'ai cru comprendre qu'il y avait la demande d'un plan de prévention.
Alors ça, c'est plutôt les données sourdes qui ont demandé
c'est votre association.
À ce que tous les acteurs se soient réunis et le préfet a répondu présent et ainsi que la directrice régionale, hein, l'égalité femmes-hommes, pour que en septembre on fasse un séminaire avec tous les acteurs, institutions, pouvoirs publics, présidents d'associations, victimes, hein, vraiment faire une rencontre, organiser une rencontre en septembre pour arriver justement à contrer ces défaillances que nous avons pu constater à divers niveaux en fait. Hein. Et on s'est rendu compte que si on travaillait tous de concert, bien évidemment, on serait plus efficace. Donc voilà, donc c'est ce qui est prévu pour septembre.
Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi, Julia Lyon, un mot d'ordre, éduquons nos fils.
Oui, et c'est drôle parce que quand l'article de Libération a rebondi sur ces manifestations, ils ont oublié de barrer le protégeons nos filles.
Et oui, fait, c'est ça. Oui, c'est étrange. Oui.
C'est étrange. En réalité, effectivement, pendant des années, on a estimé qu'il fallait protéger les filles des garçons. On est en train d'imaginer que peut-être d'éduquer les garçons autrement, mais c'est pas seulement éduquer les garçons autrement, il faudrait aussi éduquer les filles à arrêter de désirer cette masculinité toxique, et le cinéma est très 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 nécessaire pour ça, et la littérature aussi.
Tout cela. Et Laure Murat, ça fait partie aussi de ces questions de genre sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps, et effectivement, toutes ces questions de stéréotypes, pourrait-on dire, qu'il faut déconstruire avant peut-être de construire de nouvelles, s'il le faut, masculinités, de nouvelles féminités. Tout cela, c'est très important.
C'est important et ça prend beaucoup de temps. Et je crois que quand on parle de culture, il faut aussi parler de révéler certains impensés ou des choses qu'on n'a pas nécessairement vues dans la culture dans laquelle on a baigné. Et il faut faire un effort critique, un effort d'analyse, un effort pour regarder nos habitudes, tout simplement, nos habitudes visuelles, nos habitudes de tous les jours, même vestimentaires, enfin, je sais pas, nos habitudes de mœurs, comme on disait autrefois, pour essayer de comprendre par quoi on est agi. Et c'est très difficile, ça. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans le film, c'est le fait que c'était beaucoup des discours appris, des discours répétés. Mmh. On sentait pas une parole, je dirais, senti en quelque sorte.
Bah, c'était surtout beaucoup des filles et beaucoup des garçons disaient qu'elles avaient appris cela auprès de leur grand-mère, auprès de leur mère, auprès de leur père, etc. Voilà. Que la chasse, les armes à feu au tout début, effectivement, eh bien, c'est ce qu'on apprend parce que c'est lorsqu'on est un jeune homme, c'est normal d'apprendre le maniement des armes à feu pour la nouvelle année, par exemple.
Voilà, mais je pense que vous avez dit le mot « qu'est-ce qui est normal ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qui est normal? Est-ce que c'est normal de forcer une fille? Est-ce que c'est normal de vouloir de prendre un fusil et de tirer en l'air? Est-ce que c'est normal? Et je crois que cette réflexion sur la norme, pas nécessairement pour la détruire, parce que à partir du moment où on détruit une norme, on en reconstruit une autre.
Bien sûr.
Hein, c'est comme quand on sort du placard. Une fois qu'on sort du placard, on se retrouve où? Dans quelle autre pièce?
Quelle autre pièce?
Dans un autre placard? Enfin, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, déconstruire une norme, c'est très nécessaire, mais il faut surtout la réfléchir, la penser, tout simplement. Et ça, c'est affreusement difficile, parce que c'est quelque chose à laquelle on baigne dedans, donc on ne peut pas avoir la distance nécessaire. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de jugement, ce que je veux dire par là, mais c'est une évidence, mais il n'y a pas de jugement moral à porter sur tous ces discours. Il y a une grande misère, je trouve, qu'on entend à peu près partout. Et justement, pour qu'on revienne à cette idée de comment naissent les révolutions, j'ai posé la question récemment à une grande historienne de la Révolution française, qui est Lynn Hunt, et je lui ai demandé...
Lynn Hunt, c'est ça.
Voilà. Je lui ai demandé ce qu'il fallait, et elle m'a répondu cette très belle phrase, enfin c'était un seul mot, elle m'a dit « hope », il faut de l'espoir. Alors je pense que cette jeune génération, elle est porteuse d'espoir, parce qu'elle croit qu'en descendant dans la rue, qu'en criant et qu'en disant « I was Corsica » à 12 ans, à 15 ans, j'insiste sur le fait que c'est quand même des crimes perpétrés sur des gens très jeunes. Hein. C'est qu'il y a beaucoup d'inceste, qu'il y a beaucoup de pédocriminalité. Je pense que ce sont des dimensions très spécifiques aussi. Mais on n'a pas le temps d'en parler, mais je veux dire, donc de l'espoir, eh bien, elles sont portées, elles et ils sont porteurs d'espoir pour un changement.
Et cet espoir, est-ce que vous pensez, Julia Lyon, que justement, parti de Corse, il peut conquérir le continent, reprendre pied sur le continent, faire en sorte d'une certaine façon que cet exemple, ce qui se passe en Corse, puisse venir ailleurs et nous dire, bien comme le disent certaines de ces leaders de ce jeune mouvement, c'est le gang de filles qui va mettre le feu à la Corse, ou encore on est la génération révolutionnaire en Corse, Julia Lyon.
Mais je crois qu'il y a une histoire de génération et de manière de court-circuiter la transmission, et qui est propre à cette génération-là. Les gamines qui sont dans la rue là, parce que c'est effectivement pour beaucoup des jeunes filles, elles ont eu leur puberté à l'époque de MeToo, à l'époque où on a commencé à interroger ces questions-là de manière vraiment publique. Et surtout, elles ont trouvé leur information par les réseaux sociaux, et non pas seulement dans la transmission de leur mère et de l'archaïsme des vieilles bonnes femmes qu'on est nous, qui sommes déjà les héritières de 68. Moi, ma mère était féministe, mais pour autant, c'est pas le même féminisme. Et que là, il y a quelque chose qui circule en dehors de la transmission directe, c'est sûr. Et aussi, il y a quelque chose qui prend forme sur une nouvelle façon d'être des jeunes filles ou des jeunes hommes. Et que ça existe en Corse, mais ça existe ici ailleurs, enfin autrement. Ça va prendre de partout, j'ai l'impression que quelque chose bouge. Paul Preciado dit la révolution est en marche, et c'est vrai.
Sur ce point, justement, Laetitia Marocou, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle, évidemment. C'est pour ça que nous avons titré cette émission I Was Corsica avec un hashtag, puisque c'est le hashtag, et MeToo, évidemment. Ce rôle des réseaux sociaux, c'est effectivement une façon, peut-être, de transformer d'autres mouvements qui ont eu lieu, des mouvements d'ailleurs lancés souvent par des femmes en Corse. Le manifeste pour la vie, c'était en 94. La lettre ouverte à François Hollande, c'était en 2012. Le collage anti-féminicide dès janvier 2020 en Corse également. Donc il y avait des mouvements qui étaient en cours ou qui étaient déjà lancés, mais sur un autre mode, beaucoup plus jeune, par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux.
Oui, je crois vraiment, et je suis heureuse que l'on finisse un peu sur cette note d'espoir, justement, parce que je pense vraiment...
Il n'est pas question de désespérer quand il y a un mouvement comme celui-ci.
Il y a une réelle volonté... oui, non, c'est sûr. Mais non, mais le sujet étant grave, bon... Mais non, il faut vraiment espérer, parce que je trouve ici, pour le vivre au quotidien, je trouve qu'il y a une réelle prise de conscience, que les personnes sont conscientes que nous avons encore des choses à faire. On a eu beaucoup de soutien aussi, je tiens à le dire, de personnes extérieures qui vraiment se sont manifestées, et pas que sur les réseaux sociaux, en message privé, etc., pour dire on est de votre combat, les gens nous ont applaudi aux fenêtres de la ville d'Ajaccio, enfin voilà. Donc non, il se passe vraiment quelque chose, et nous on va œuvrer pour que pour améliorer les choses. En plus, nous on a la chance d'être sur un petit territoire et d'arriver à allier nos forces de façon plus forte. Ouais. Et puis je le dis souvent, parfois sur le ton de la plaisanterie lorsque je m'adresse à des hommes, mais je crois vraiment que l'avenir de la Corse, ce sont les femmes.
C'est les femmes. Et ce qui s'est passé.
Une approche qui est complètement différente, justement, au niveau de la violence, on n'a pas du tout la même approche que les hommes.
Et il s'est passé quoi aujourd'hui, justement?
Ça peut venir de ces jeunes filles et des jeunes générations.
Et il devait y avoir un rassemblement aujourd'hui à Ajaccio, devant le tribunal de grande instance, et
oui,
à Bastia, devant le palais de justice.
Effectivement, oui, alors il y a eu deux rassemblements aujourd'hui, mais ça, c'est parce que. Nous avons été quand même choqués, et en plus là c'est la femme politique qui parle, sans parti pris, étant donné que j'ai aussi souvent soutenu ce gouvernement. Ce qui a été choquant, c'est en fait pour nous, c'est pas de nier la présomption d'innocence, parce que comme je le disais encore ce matin, il est évident que la présomption d'innocence doit primer, mais c'est le fait qu'à aucun moment le gouvernement n'ait pensé qu'une accusation de viol était un problème. Voilà, c'est plutôt ça qui a été choquant.
Vous parlez de Gérald Darmanin et de...
dans toute la France,
Et de Éric Dupond-Moretti.
La France, il y a des personnes qui se rassemblent, des femmes. Mais alors, voilà, Éric Dupond-Moretti, bon, ce sont des propos qui sont, je pense que vous avez lu les mêmes choses que moi, hein, parce qu'après, on ressort les dossiers pour critiquer telle ou telle personne aussi. Hein. Mais ce qui est choquant, c'est le ministre de l'Intérieur, qui est quand même, qui a une fonction là, qui est incompatible pour le chef de la police d'être entendu par la PJ et donc d'être confronté à une plaignante de par sa fonction. Voilà, ça c'est ce qui est, je pense, qui est choquant et qu'on n'ait jamais pensé à un moment que cette nomination puisse poser problème. Donc on a encore des progrès à faire, je crois.
Laure Murat.
On a tout à fait pensé que cette nomination pouvait poser un problème et qu'on s'en bat l'œil, comme on dit dans le monde. C'est évidemment une déclaration de guerre. C'est pas du tout un hasard si Gérald Darmanin a été nommé ministre de l'Intérieur. C'est évidemment bafouer toute une cause. On ne peut pas mettre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin au poste où ils sont, qui sont les deux postes clés pour les féminicides, pour les viols, pour la pédocriminalité, pour tout ce qui concerne un mouvement extrêmement puissant, dont je rappelle qu'il est planétaire, et qu'il est, une fois de plus, très spontané et très vivant. Et ben, c'est une fois de plus la marque de la ringardise du gouvernement et du chef de l'État, je regrette beaucoup, de sa malhonnêteté à dire que c'est la grande cause du quinquennat, c'est la dernière cause du quinquennat. Maintenant, la preuve est faite. Et si la révolution, c'est l'espoir, Emmanuel Macron, c'est nouveau. Ça, c'est sûr.
Nous avions invité, mais nous n'avons pas pu la joindre à temps, la nouvelle ministre déléguée aux questions justement d'égalité et de discrimination, Elisabeth Moreno, mais nous la réinviterons, je pense, bientôt pour pouvoir parler de toutes ces questions. Julie Allion, justement, sur cette capacité que, dans un mouvement dont, que vous avez très bien décrit depuis le début, effectivement, un mouvement né en Corse, etc., de se transformer en autre chose et de faire en sorte que l'émulation puisse se mettre en place de la part de jeunes filles, de jeunes garçons, de jeunes hommes sur le territoire en métropole et en particulier sur le continent, comme on dit en Corse. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais je pense que c'est déjà en route partout, en fait. Effectivement, on est sur un petit territoire quand on est en Corse. C'est tout petit, tout le monde se connaît.
C'est d'ailleurs, on assiste beaucoup. Ici, on connaît souvent son agresseur, disent certaines...
On connaît tout le monde, enfin, on se croise tout le temps, tous, tout le temps. Et on connaît forcément au moins le cousin ou la voisine du cousin. Mais en revanche, c'est aussi une prison. C'est aussi ce qui fait qu'on a toujours tellement la trouille de parler. Moi, j'ai l'impression que la révolution est en route et qu'elle est en route partout, avec des manifestations différentes... ici et là, et effectivement, les gens qui ne s'en rendent pas compte sont montrent des signes d'une ringardise absolument...
C'est terrible de dire qu'ils sont ringards.
Non, mais j'adore cette idée, vraiment, je trouve ça super, c'est vrai, c'est un signe d'une ringardise...
Définitive. Donc, Julie Allion, je rappelle que vous êtes l'autrice de Outre Lutte Jeunesse, c'était en 2017, de Viril, qui sort en DVD. On pourra juger sur pièce, justement, de ces entretiens réalisés il y a 2 ans, c'est cela ?
À peu près, oui. Oui.
Et donc avec ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes de Corse sur les questions de genre, puisque vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de genre. Merci à vous Laetitia Marocou. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau d'entraide féminin associatif Donné Sourélé, donc et que vous êtes conseillère municipale de la ville d'Ajaccio et que vous suivez ce mouvement Aywas Corsica. Quant à vous Laure Murat, on ne peut que conseiller votre travail d'historienne, mais également ce livre, une sorte de pamphlet, une révolution sexuelle, réflexion sur l'après Weinstein, que vous avez publié il y a maintenant 2 ans chez Stock, une véritable réflexion d'historienne et d'essayiste sur ce qui s'est passé à la fois aux États-Unis et en France. Merci à toutes les trois.
Merci.
Merci. Merci.
C'était le temps du débat d'été. Sophie Alavi, Pascaline Bonnet, Audrey Dugas, Mathilde Tonfourcade et Nicolas Berling. À la technique aujourd'hui, Jean-Guy Lamège, à la réalisation Anne de Pelchin. Lundi, nous nous poserons une autre question. À la veille du 14 juillet, un État contesté peut-il rendre un hommage national ? Nous parlerons évidemment de l'hommage national rendu aux soignants ce jour même, le lendemain, donc du 14 juillet.